Les Celtes. Évoquer les Celtes revient à présenter un vaste patchwork fait de multiples carreaux de couleurs et de tailles différentes. À son apogée, le monde celte va du détroit de Gibraltar à l'embouchure du Danube. Mais Rome le restreint de plus en plus, repousse ceux qu'il considère comme des barbares, contenus par le limes, la frontière de l'Empire romain. César, par ses campagnes, les enferme sur les îles britanniques et l'Irlande. Paradoxalement, c'est lui qui leur donne leur nom actuel, dans la guerre des Gaules, lorsqu'il définit les trois parties de la Gaule, celle des Belges, celle des Aquitains et enfin celle de ceux qui se nomment dans leur propre langue celte et que nous appelons Gaulois. L'image négative des Romains pèse longtemps sur les Celtes, barbares assoiffés de sang, inassimilables, guerriers courageux et redoutables mais incapables de s'organiser politiquement, qui ne bâtiront jamais un empire. De nos jours, le jugement est inversé. Les Celtes fascinent. Entre sagesse druidique, respect de la nature, écologiste de la première heure, sans parler des chants et danses, et plus que tout, du renouveau de la langue. Les âges du monde celte. Nous pouvons découper les âges du monde celte en cinq périodes principales. Les temps proto-celtiques s'étendent environ entre 1800 et 1200 avant Jésus-Christ. Ils se caractérisent par une migration de l'Europe centrale vers l'Europe occidentale. La civilisation des champs d'urnes s'étend environ entre 1200 et 900 avant Jésus-Christ. Elle est marquée par l'emploi d'armes en bronze plus solides, de lances, de cuirasses et d'épées, par la maîtrise de la céramique et la naissance des oppida, oppidum au singulier, qui sont des villages fortifiés situés sur un site naturel plus aisé à défendre. Auteur, île. La période de Hallstatt doit son nom à un village des Alpes autrichiennes. Elle s'étend entre 900 et 480 avant Jésus-Christ environ. C'est l'époque de la métallurgie, du fer plus solide que le bronze et des échanges commerciaux étendus jusqu'aux rives de la Baltique. La période de la Tène va du début du 5e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ environ. Marquée par des conflits nombreux, elle est aussi le moment de la plus grande extension du monde celte. C'est l'époque où les Celtes gagnent leur réputation de barbares en prenant et brûlant Rome en 386 avant Jésus-Christ, en pillant le sanctuaire de Delphes en 279 avant Jésus-Christ. La Gaule celtique dure du IIe siècle avant Jésus-Christ aux divers épisodes de la conquête romaine achevée par César au milieu du Ier siècle avant Jésus-Christ. Elle se caractérise par une implantation plus ou moins forte des tribus celtes selon les provinces, Narbonnaise, Notre Provence, Aquitaine, Celtique, vaste zone allant de la plaine du Pô à la Belgique, dont on connaît bien la tribu des Arvernes et leur chef Vercingétorix. La Belgique, enfin. Au début de notre ère, tout le monde celte passe sous domination romaine, à l'exception de l'Irlande, qui conserve la civilisation celte intacte jusqu'au 5e siècle de notre ère, moment de la christianisation de l'île par Saint Patrick et ses compagnons. Ceci explique qu'aujourd'hui encore, une grande partie des connaissances sur le monde celte proviennent de cette île qui transmet les traditions celtiques jusqu'à la fin du XVIIIe siècle au moins. La religion des Celtes. Elle nous est surtout connue par les visions critiques des autres peuples, romains, grecs. Les Celtes eux-mêmes ont laissé très peu de témoignages écrits, quelques stèles funéraires en latin ou en grec, à partir du gaulois, et des bâtons de bois gravés en Irlande, en écriture ogamique. L'ogam est la langue des druides rédigée selon un système d'encoches, de petits traits dessinés à droite ou à gauche, ou de part et d'autre d'une arête. Cet alphabet tombe en désuétude avec le christianisme et la généralisation de l'alphabet latin. On disait que cet alphabet avait été donné aux anciens par Ogma, le vieux dieu de l'éloquence et de la littérature. Les textes sont gravés sur des bois d'ifs et de noisetiers. Mais la religion des Celtes est avant tout une pratique accompagnée d'une tradition transmise oralement, ce qui explique des lacunes dans la connaissance que nous en avons. Le phénomène essentiel, et qui nous intrigue toujours autant, est le druidisme. Le mot « druide », formé de « dru » et « id », signifie « le très savant » ou « le très voyant ». Un druide est un homme qui aspire à approfondir son savoir dans tous les domaines. médecine, botanique, astronomie, diplomatie, spiritualité, etc. Il s'est formé au cours de longues années auprès d'autres druides. Il en résulte que celui qui exerce ce sacerdoce n'assume pas seulement des fonctions religieuses, mais est amené à intervenir, conseiller, organiser dans les nombreux domaines de compétences qui sont les siens. Ainsi, il préside aux cérémonies religieuses, sacrifices fréquents d'animaux, mais aussi aux libations de lait, de miel, d'eau. Il assure la transmission du savoir par l'enseignement, tient lieu de juge de paix, soigne malades et blessés. Contrairement à une imagerie romantique, le druide est aussi un soldat qui participe aux guerres et combats, puis prend en main les négociations diplomatiques. Guide du peuple et de ses rois, homme sage, il incarne la continuité du groupe en maintenant ses traditions, en expliquant l'origine des lois et interdits, tout autant que l'origine des clans par une science pointue de la généalogie. Le druide est enfin le compagnon de la vie quotidienne qui intervient à la naissance, au mariage, au décès, hôte régulier de ceux qui doutent de leur avenir et ont recours à ses connaissances divinatoires. Le panthéon celte. Les Celtes forment une mosaïque ethnique et il est de ce fait impossible de présenter tous les aspects de leur mythologie en fonction des lieux d'implantation géographique des différents groupes. Nous nous appuierons donc ici sur la mythologie la mieux connue et la plus longtemps préservée, celle de l'Irlande, pour présenter l'origine mythique du peuplement de l'île et la geste de son plus grand héros, Cú Chulainn. Voici les principaux dieux du panthéon celtique présentés sous leur nom en Irlande et en Gaule, ainsi que leurs attributions. Lug, Lugus en Gaule. Habile en toutes choses, est le dieu de la lumière. Nommé Lei dans le pays de Galles, il est représenté en jeune et beau guerrier. Dagda, Taranis en Gaule. Le dieu bon est le principal dieu irlandais. Dieu des druides et de la magie, il peut ressusciter les morts. Ogma, Ogmios en Gaule, fils de Dagda, est le dieu de l'éloquence et l'inventeur du premier système d'écriture inventé en Irlande, l'Ocham. Diankert, Mapanos en Gaule, est le dieu de la médecine avec sa fille Hermed, protège la source sacrée dont les eaux redonnent vie aux dieux mourants. Brigitte, Brigantia en Gaule, est la déesse de la fertilité qui, sous sa forme de Brigantia, est associée à l'eau, à la prospérité, à la médecine et à la guerre.
Le saviez-vous? Cú Chulainn, l'Achille irlandais. Cú Chulainn est le héros par excellence de la mythologie irlandaise. Un véritable Achille, redouté pour ses colères qui le transforment en être monstrueux. De son vrai nom, Setanta, le chemin, il est rebaptisé à 5 ans Cú Chulainn, le chien de Culann. Après avoir tué le chien féroce du forgeron Culann, qu'il propose ensuite de remplacer, afin de garder la maison. Lorsqu'il tue 3 guerriers, ennemis de l'Irlande, ainsi que tous leurs partisans, sa capacité à se transformer lui vaut le surnom de contorsionniste. Sous l'effet de la colère, il devient difforme. Ses mâchoires s'ouvrent au point d'avaler une tête humaine. Ses cheveux se hérissent, terminés chacun par une goutte de sang. Et du sommet du crâne surgit un flot de sang noir, épais, dressé comme un tronc. Parvenu à un tel paroxysme de fureur, il faut ruser pour le calmer. La reine Mouin vient à sa rencontre avec 150 femmes nues et 3 cuveaux d'eau froide. Le premier explose, le second bout, le troisième chauffe, mais en sortant, Cú Chulainn a repris son apparence normale. Il finit par trouver la mort en combattant les armées de la reine Maeve du Connard. Pour mourir debout et combattre jusqu'à épuisement de ses forces, il s'attache à un rocher. Une corneille, animal psychopompe, c'est-à-dire qui transforme les âmes des morts dans l'au-delà, se perche sur son épaule au moment du trépas.
Les fêtes religieuses celtes. Les Celtes célèbrent 4 grandes fêtes annuelles dont nous avons conservé par un symbolisme religieux ou politique l'essentiel. Samhain en novembre, Imbolc en février, Biltain en mai, Lunasa en août, dont voici le détail. Samhain, c'est-à-dire au sens propre la réunion, celle des vivants et des morts, a lieu le 1er novembre. C'est le temps du passage d'une année à l'autre, passage également entre le monde des vivants et celui des morts, célébré par des banquets et des beuveries. L'Église catholique transforme la fête qui dure une semaine en celle de la Toussaint, fête de tous les saints. Imbolc, ou lustration, est la cérémonie qui clôt l'hiver, une purification qui prépare au renouveau de la nature. Elle prend place le 1er février. C'est également en février ou en mars, selon la date de Pâques, après les ultimes agapes, que les chrétiens se purifient par le jeûne du carême pendant 43 jours. Biltain, le 1er mai, honore Belenos, dieu de la lumière, de la médecine et des arts, et sa parèdre, c'est-à-dire son épouse déesse Belisama, déesse des forgerons et du feu domestique. C'est d'ailleurs par de grands feux que la fête est marquée. Il ne semble pas exister de rapport direct à notre connaissance avec la fête du travail. Lunasa, le 1er août, permet à ses sectateurs de rendre hommage au dieu Lug, roi des dieux. Des compétitions sportives, des combats de lutte, des récits en son honneur jalonnent la fête.
N'oubliez pas, cueillons le gui. Le dépositaire du secret de la potion magique, Panoramix, hante l'imaginaire collectif. Longue barbe, robe blanche, fossile d'or, il coupe solennellement le gui. C'est, pensez-vous, la fonction par excellence du druide. Eh bien, détrompez-vous, c'est une histoire de Romain. Cette image, bien ancrée, nous la devons à l'auteur du 1er siècle après Jésus-Christ, Pline l'Ancien, qui en fournit une longue description. Or, les fouilles archéologiques prouvent que les druides étaient vêtus comme tout le monde, hormis des ornements symboles de leur rang, comme le torque, lourd collier d'or rigide qui entoure le cou. La cueillette du gui, comme celle de bien d'autres plantes, fait partie des attributions du druide, pour préparer potions, magiques ou non, et remèdes divers. Allons, ne soyez pas triste. Le petit guerrier d'une bande dessinée mondialement connue vous conduira encore longtemps dans la chaumière du druide et la forêt des carnutes.